Vous êtes bien sûr Radio Canus, en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Et ben, c'est l'émission du cirque du 22 janvier 2018. Et puis ben, nous sommes pas mal en retard. Voilà, un petit peu quoi. Et donc, ben, comme toujours, on va vous parler un petit peu de tout ce qui se passe dans l'actualité cannabique dans le monde. On va partir par l'état du Vermont qui légalise, qui est passé à l'acte. Hein. Vous savez, il avait voté là, ça, c'était le 8e ou le 7e. Voilà, ben, en tout cas, c'est parti là-bas aussi. On va revenir avec Macron et l'amende forfaitaire délictuelle, 250 à 200 euros.
Oui, parce que le rapport de la mission parlementaire va être rendu public là, très prochainement, dans voilà, la semaine en fait.
Tout à fait. Donc, mais bon, les conclusions sont presque connues a priori.
Oui, bon, elles étaient déjà connues avant même de faire la commission parlementaire, ça s'appelle la démocratie.
Les questions étaient tellement bien orientées qu'on savait déjà ce qu'ils allaient dire.
Voilà. Voilà, donc on en parle ce soir, il y a des chances qu'on en reparle la semaine prochaine aussi.
Tout à fait. Voilà, alors des gens disent ce qui va se passer, que cela ne va rien changer, comme Amim Meneyamina qui parle des choses assez intéressantes.
Ouais, c'est à peu près le seul qui dit des trucs intéressants.
Ah oui, parce qu'il y en a un reste, autre qui dit des...
La médiocrité des journalistes du Parisien sur ce sujet, alors là, c'est lamentable.
Voilà, pourtant, tu
on leur tire pas notre chapeau.
Tu nous en as mis pas mal.
Ah, je t'en ai mis que 3 sur les 6 ou 7 que j'avais à ma disposition.
D'accord, bon, voilà, donc il y a différents articles sur la contraventionnalisation du Parisien, avec un rappel qu'il y a le Cirque TV, si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé pendant cette commission parlementaire, toutes les auditions, etc. Donc, sur écoute sur
le site, enfin sur YouTube, Cirque TV, voilà.
Voilà, tout à fait. Sinon, on parlera un petit peu de la Grèce et le cannabis médical. On parlera aussi de Corbière.
Oui, bah Corbière, le maire qui s'exprime aussi sur cette histoire de...
On reviendra un petit peu, voilà. C'est un petit peu dans le désordre, mais on essaiera de faire des panassages un petit peu équilibrés. On reviendra encore aussi sur les États-Unis avec la légalisation qui ferait baisser ou qui fait baisser la criminalité. Voilà, donc il y a aussi un article sur la Californie. Voilà, donc la légalisation qui n'est pas... C'est pas une bonne chose pour les chouettes. Alors ça vient plutôt des produits qui sont utilisés contre les rats. Alors pourquoi utiliser des produits contre les rats? Est-ce que les rats attaquent le cannabis? Voire peut-être, pourquoi pas, peut-être. Voilà, faut voir.
Là aussi, on verra que l'article est d'une qualité médiocre parce que... On verra, voilà, on verra.
On retient une chose, c'est que en tout cas, il y a des biocides qui tuent, pour tuer les rats, qui tuent les chouettes. Voilà, ça c'est la réalité. Après, pourquoi utilisent-ils ces biocides? Là-dessus, je suis un petit peu sceptique. Voilà, alors un pas en arrière, c'est pour l'Espagne, qui ne tolère plus le cannabis. Alors l'Espagne que ne tolère plus vraiment grand-chose. Hein. Voilà, c'est un rendu de la Cour constitutionnelle. Voilà, donc... Les clubs de quoi les
cannabis social
cannabis
club.
Club voilà ont du plomb dans l'aile. Sinon après on reviendra un petit peu sur le CBD, sur les différentes études diverses et variées qui existent sur le voilà donc un article de l'Express sur le CBD, un autre dans Pourquoi Docteur différentes choses sur le CBD la schizophrénie, un autre sur le THC et le VIH. Toujours la comparaison alcool et cannabis, mais voilà, je pense que c'est des choses, on n'y arrivera pas. Alors ça c'est le dernier sujet, c'est la psilocybine, là aussi, petite molécule qui a priori a plein d'effets positifs pour des gens qui ont quelques problèmes psy, ça permettrait de redémarrer le cerveau comme ils disent, ou de le rebooter.
Oui, de le défragmenter même.
Ouais. Voilà.
Mais bon, peut-être qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, que déjà on a dit beaucoup de choses. Ça veut pas dire, parce que c'est dit dans l'article, hein, vite, après on va écouter un peu de musique, ça veut pas dire que c'est une incitation à vous automédiquer, à prendre du LSD chez vous. Si vous êtes déprimé, c'est dans le cadre d'une étude très très sérieuse qui a été menée...
C'est dans Science et Avenir, oui.
Qui a été menée en Angleterre, voilà, c'est un article de Science et Avenir, donc voilà... En tout cas, il y a des études qui sont effectuées sur le sujet. Il y en a déjà eu pas loin d'une. Oui, il y a déjà eu 19 publications en 7 ans sur cette sur cette question hein, d'administrer quelques milligrammes de psilocybine à des patients qui souffrent de dépression.
Voilà, donc là c'est la psilocybine, hein, voilà. Quand on ne parle pas de LSD.
Non.
Qui là aussi a des effets, on a vu qu'il y a eu des recherches aussi sur le LSD et...
Qui convergent un peu dans le même sens d'ailleurs.
Dans le même sens,
c'est pas étonnant. Hein. Voilà, donc c'est tout, hein, juste pour dire ça. Mais en tout cas, bon.
Voilà, et si vous voulez en savoir plus, allez voir dans Science et Avenir.
Voilà, un article du 24 octobre. Hein, c'est pas tout dernièrement, mais voilà,
voilà, il est ressorti un peu. Et... qui arrive un peu tard.
Voilà, c'est tout. Allez, musique, et on revient tout de suite après.
Ouais.
Bah oui. Les bruits.
Si vous.
Les bruits du studio qui grincent, mais. Hop, musique.
Bon, bah lui, il veut pas. Oh.
Vous êtes en direct, ne vous inquiétez pas. On essaie de lancer un morceau, mais on a un petit souci avec nos platines CD qui ne veulent pas lancer le morceau qu'on avait prévu de vous mettre. Voilà, c'est malheureusement... Ah, c'est parti, allez, à tout de suite. Voilà, Sergent Garcia.
Ouais,
tout à fait. Cabar Mal. Une soirée spéciale Sergent Garcia ce soir.
Ouais, quasiment.
Ah bon?
Oui, totalement. Même.
Ah bon,
totalement.
Ouais, semblait bien. Ouais. Bon, alors, on traverse l'Atlantique et avant de revenir par chez nous, parce qu'en Atlantique, aux États-Unis, il se passe, faut le reconnaître, hein, quand même des choses un peu plus intéressantes que chez nous.
Ah bah au moins il y a du débat,
voilà.
Il y a de la contradiction.
Il y a des décisions.
Ouais, lundi blanc, lundi noir, mais au final, bah ça avance, hein, je sais pas jusqu'où, mais...
Ah bon alors...
En tout cas, là c'est le Vermont qui vient de passer lui aussi et a voté la loi H511.
Il l'a bien nommé. Donc voilà, le Vermont qui fait un peu comme a fait la Californie au 1er janvier, c'est-à-dire... met en application dans l'État la disposition, donc la loi H511, la votée pendant les élections, les élections présidentielles, le vote des élections en novembre 2016. Lesquelles élections, vous le savez toutes et tous, ont donné comme vainqueur et comme nouveau président Donald Trump, mais comme c'est le cas aux États-Unis. Tous les deux ans, il y a des élections, alors les élections présidentielles, puis les élections de mi-mandat, et à chaque fois, dans chaque État, il y a différentes dispositions qui sont soumises au vote des citoyens des États. Et donc, voilà, donc là, c'est pour la légalisation dans l'État du Vermont.
Donc ça a été mis en place le 4 janvier 2018.
Voilà, donc vraiment dans des temps très très proches de ce qui s'est passé en Californie. Alors on en parle moins parce que l'État du Vermont, c'est un État minuscule, très 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 peu peuplé comparativement à la Californie. Hein. Mm-hmm. Donc bon, forcément, ça, les enjeux sont pas les mêmes et ça suscite pas les mêmes passions...
Mais voilà, bon, néanmoins, il y a eu pas mal de débats justement pour les sanctions pour les conducteurs positifs au cannabis. Donc voilà,
c'est là-dessus. Oui.
Sur l'autorisation de la possession d'une certaine quantité d'herbe, alors jusqu'où, et surtout aussi une discussion par rapport à la culture à domicile, soit donc l'autoculture. Voilà un petit peu les débats. Et moi, dans tout ça, ce que j'ai aimé, c'est le président du Sénat. Tim H qui a dénoncé les affirmations de Jeff Sessions, vous savez c'est le ministre de la justice américaine qui a décidé de remettre en
question la légalisation dans les différents États.
Et surtout de rappeler la suprématie de la loi fédérale et d'annuler tous les décrets qui avaient été pris sous Obama pour calmer et pour laisser faire... pour que chaque État puisse faire ses expérimentations. Voilà, donc là, il revient là-dessus.
On en a parlé la semaine dernière déjà.
Et voilà, donc j'ai bien aimé ce que dit Tim H par rapport à Jeff Sessions, qui dit apparemment, donc Jeff Sessions est plus troublé par un homme de 80 ans qui utilise la marijuana médicale pour traiter un problème de santé qu'il ne l'est lorsqu'il prépare sa stratégie électorale avec les Russes. Voilà un petit peu le débat aux États-Unis. Bref, en tout cas, bonne nouvelle, l'État du Vermont a légalisé l'usage du cannabis récréatif.
Oui. Oui, alors bon, par rapport au projet, à la volonté de Jeff Sessions, hein, on en a déjà parlé la semaine dernière, on disait que ses propos ressemblaient plus à une gestikulation qu'à une réelle volonté de tout remettre en question. La preuve, hein, avant le vote de la loi, enfin la mise en place des dispositions en Californie, et à la fin de l'année, Donald Trump a reconduit en loose day ce qu'avait fait Obama plusieurs années auparavant, c'est-à-dire justement qu'il laisserait... il laisserait faire les États. Donc,
Justement, c'est sûr, a cassé ce qu'avait fait Trump.
Bah, il a cassé, il a dit que...
Bah, il l'a fait, il me semble.
Mais il a rien fait.
Bah, il a envoyé une lettre à tous les...
Ouais, bon, enfin, c'est pas en envoyant une lettre que tu fais...
Une recommandation, c'est comme le ministre de la Justice qui a écrit au procureur. Les procureurs sont censés obéir aux directives. Hein.
Bah alors le président, qui est celui qui a le plus de pouvoir que son ministre, décide qu'on va continuer, et trois jours après, son ministre de la Justice dit non, moi je vais écrire, non, ça ressemble à rien, c'est pas cohérent.
Je pense que si Trump,
en loose day, il a reconduit les dispositions, c'est pas pour rien non plus.
On verra bien.
Oui, on verra.
En tout cas, d'autres effets bénéfiques de la légalisation du cannabis aux États-Unis, ça fait baisser la criminalité.
Voilà. Alors bon, un article de plus qui démontre le bienfait d'une loi cohérente en fait en la matière. Hein. C'est pas le premier article. Il y a eu plusieurs articles dans la presse. Bon, j'ai sélectionné celui de France Inter.
On avait parlé au niveau du Colorado à l'époque. Et donc maintenant, il y a 2-3 ans, je crois. Et là, maintenant, c'est la même chose que l'on voit en Californie.
Voilà. Bon, vous inquiétez pas, on va pas s'étouffer. Hein. Donc oui, alors là, cette fois-ci, c'est en Californie. Bon, globalement, la criminalité a plutôt baissé de 13% en moyenne. Alors, on peut avoir du recul sur la Californie. Ça fait quand même déjà 20 ans qu'il y a eu une réforme en la matière au niveau du cannabis médical.
Tout à fait.
Voilà. Donc bon, le cannabis médical n'étant pas consommé que pour des raisons médicales, en Californie en tout cas, on sait que d'ailleurs Obama avait sévi un peu, hein, d'ailleurs dans les premières années de son mandat, et il avait fait fermer ou il avait fliqué les dispensaires qui vendaient du cannabis médical, parce qu'il savait bien qu'il y avait un détournement de la loi en vigueur dans l'État. Et que des médecins peu scrupuleux donnaient des ordonnances à des gens qui n'étaient pas malades pour avoir du cannabis, en fait.
Tout à fait. Mais non, le problème, c'était les magasins, les officines peu scrupuleuses qui donnaient du cannabis sans ordonnance.
Sans ordonnance. Il y avait les deux, en fait. Hein.
Mais c'est là-dessus que Obama a tapé. Parce que du coup, ils ont mis des médecins ou des officines de médecins juste à côté pour que les gens puissent avoir leur ordonnance pour aller en chercher en toute quiétude et en toute légalité.
D'accord. Bien.
Voilà, mais bon, là, qu'est-ce qu'on va... Sinon, oui, il y a quand même 2-3 chiffres qui sont assez intéressants. Moi, la criminalité qui baisse de 13% en moyenne, donc de 15% en Californie, et surtout, alors, le plus étonnant, c'est les attaques à main armée ont baissé de moins 19%. Voilà, donc d'une façon générale, les meurtres baissent aussi de 10%. Alors ça, c'est plus compréhensible, puisqu'il y a plus ce contrôle par la mafia et par les cartels de la vente, et il y a forcément moins de règlements de compte et moins de meurtres. Mais sur les attaques à main armée, j'en reste...
Une baisse des meurtres de 10% également.
Voilà, je vois pas la causalité, donc mais c'est ça qui est assez intéressant justement.
Ce qu'avaient révélé les premières études en fait, ou les premiers résultats dans le Colorado, ce qui se disait, c'était que la légalisation du cannabis, substance qui est particulièrement recherchée par beaucoup de gens, à partir du moment où on réglemente, ça brise la chaîne de tout un tas d'illégalisme en fait. Et donc forcément, mécaniquement, ça fait baisser la criminalité, la délinquance. Voilà, je crois qu'au Colorado, ce qui avait beaucoup baissé, c'était les cambriolages également. Et les vols de voitures, me semble-t-il.
Tout à fait, c'est exact.
Voilà.
Faudra voir. Hein. Puis on verra bientôt quand ça sera fait en France, en 2027.
Non, mais nous, en France, on aime la criminalité élevée. On aime avoir des prisons surpeuplées.
Oui.
On aime ça. On est un peuple de maso, je pense.
Voilà, on aime que la justice soit...
généralisée.
Ouais.
Ça fait peur, ça fait peur. Bon,
On va revenir là-dessus dans 5 minutes, on va se lâcher un peu encore sur nos politiques.
On va se gêner. Donc toujours aux États-Unis.
Toujours aux États-Unis, cette petite brève sur ces pauvres chouettes qui meurent.
Ça ne fait pas baisser la criminalité tant que ça, parce que chez les animaux, ça tue les chouettes. Mais en fait, non.
Ah.
Pas tant que ça, parce que... En fait, l'intérêt d'une légalisation, c'est de mettre un peu les choses en ordre. Hein? Or là, ce qu'on nous explique, c'est qu'en fait, pour l'instant, la légalisation et la mise en ordre des traitements phytosanitaires, elle n'y est pas.
Voilà, tout à fait. Oui, il n'y a pas assez de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Donc forcément, bah, ça pose un problème. Ça pose un problème de santé publique pour la faune. Mm. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben ces chouettes qui malheureusement décèdent plus que normalement et qui décèdent beaucoup depuis 2009 en fait. Elles ingèrent des animaux, des rats en l'occurrence, contre lesquels on a tenté d'administrer.
On a
administré de la
du rhodoticil,
du rondo, bah, une morora en fait,
hein, voilà, oui, un biocide,
voilà, qui après sont consommés par les chouettes et qui n'aiment pas forcément consommer des rats empoisonnés parce que bah ça les tue.
Voilà, c'est souvent voilà des anticoagulants et donc bah, l'effet recherché sur le rat et se retrouve dans le son prédateur, donc la chouette.
Voilà.
Donc aussi bien la pauvre chouette tachetée du nord que l'autre chouette
rayée,
voilà.
Vous voyez, une chouette rayée, une chouette tachetée, une qui est plus grosse que l'autre aussi, celle qui est plus grosse va forcément menacer la plus petite, quoi.
Voilà, tout à fait. Et bon, bref, avec tout ça, ben, cette chouette qui était déjà menacée, ben, maintenant, a une raison en plus. En plus de tout ça, il y a le changement climatique qui lui réussit pas.
Eh oui, c'est aussi un facteur.
Bon, bref.
Donc voilà, c'est un article de Science et Avenir de la semaine dernière, du 17 janvier, qui est quand même intéressant, mais qui est à mon avis un peu incomplet quand même.
Tout à fait. Alors moi, je suis d'accord sur qu'il y a des biocides qui tuent ces chouettes, ça c'est le fait indéniable. Par contre, qui utilise ces
moraux?
Et pourquoi on accuse encore directement le cannabis? Voilà, bon, ça me reste.
Pour l'instant, je comprends pas trop le lien. Ouais.
Voilà. Alors, il est exact que les plastiques en chambre sont bouffés par des rats. J'ai entendu parler de ça. Mmh. Ça s'est vu aussi bien sur des voitures. Donc ça, j'avais entendu parler de ça à Marseille.
D'accord.
Des machines à laver qui ont été bouffées comme ça aussi par un rat. Voilà. On a entendu parler de ça aussi.
Des machines à laver, mais c'est un rat.
Machine à laver, la vaisselle.
Un rat bionique, quoi.
Ah non, mais ils mettent beaucoup de pièces en plastique et en bioplastique.
D'accord.
Et donc, du coup, il est totalement ingérable pour un herbivore. Et donc, voilà, les rats, entre autres, voilà, le mangent.
Mais ils sont pas herbivores, les rats, ils sont lave-vaisselivores, là.
Ben non, ils mangent que le plastique, ils vont pas manger la vaisselle dans le lave-vaisselle. Voilà, ouais, bon, bref, raison, ouais. C'est sur ces petites...
Bon, oui, c'est craignos. Donc bon, j'espère qu'en tout cas, ils vont faire ce qu'il faut pour que les rats, ils arrêtent de manger de la morora qui tuera les chouettes, quoi, tout simplement.
Voilà, de manière, c'est le problème de tous les produits chimiques qu'on utilise. Hein. C'était le DDT qui empêchait aux oiseaux qui bouffaient pareil, je sais plus quel, les petits vers, qui n'arrivaient plus à solidifier leurs coquilles après.
D'accord.
Voilà, ça a été le même problème. C'est pour ça qu'on a interdit le DDT. Peut-être qu'un de ces jours, on va interdire la morora, ou en tout cas l'utilisation de
rodenticides
et des anticoagulants.
Ok.
Revenons donc à la politique française, c'est ça?
Ah, qu'on se marre un peu. Qu'on rigole. Donc, c'est le Parisien qui a décidé de faire une. Toute une série d'articles sur la question ce week-end. Un gros dossier en fait. Alors j'ai pas mis tous les articles. Hein. Globalement, ils étaient quand même d'une qualité assez moyenne, voire pas dire plus. Hein. Donc j'ai choisi trois articles dans notre revue de presse aujourd'hui. Donc un premier article intitulé « Macron va-t-il briser le tabou du cannabis ?» Un second avec interview de Amine Benyamina, addictologue, intitulé « Sanctions allégées contre les fumeurs de cannabis, cela ne va rien changer », donc c'est lui qui dit ça. Et enfin, troisième article, une très courte interview de l'un des rapporteurs de la mission parlementaire, le jeune, très jeune républicain Robin Reda, qui doit pas avoir 30 ans ou à peine, et qui
est déjà très vieux dans sa tête,
qui est déjà très vieux et qui déjà dit bien des conneries quoi. Et franchement, ça fait peur quoi. Mais alors, ce qui fait plus peur, c'est vraiment le traitement médiatique dans Le Parisien par Laurence Voyer, qui d'autre, Nathalie Chuc. Voilà. Alors là, vraiment.
Bon, donc commençons donc par Nathalie Chuc, hein, avec Macron va-t-il briser le tabou cannabique ? Alors Macron, c'est le meilleur, il va tout casser, il fait tomber les totems et tout ça. Heureusement qu'on a Macron. Ouais.
Ouais, c'est un peu ça. On voit pas trop quel tabou il va faire tomber là-dedans, mais bon. En tout cas, on est persuadé.
En tout cas, il arrive à faire des choses parce que la sanction, la contraventionnalisation. Tout le monde est pour maintenant, quasiment. En tout cas, tous les policiers sont pour, alors qu'ils étaient contre quand c'était Taubira qui l'avait prononcé.
Mais ils sont pas tant pour que ça, en plus, hein, parce que c'est une paperasse, pas possible qu'il va se mettre.
Bah non, si c'est juste une contre-fonctionnalisation, mais c'est pareil. Par contre, en tout cas, c'est une amende de 150 à 200 euros. Alors je dis une amende, je préfère quand même le terme, une amende forfaitaire délictuelle. Bref, autrement dit, la contraventionnalisation. Voilà, Sarko l'avait rêvé, voilà. Hollande n'avait pas bougé, Valls avait sans doute bloqué. En tout cas, cette Arlésienne qui avait commencé avec Jospin va se terminer grâce à Macron avec la contraventionnalisation. Bref, surtout, c'est que ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter là-dessus, sur cet article.
C'est assez incohérent quand même. Je trouve que quand on dit comme ça, faut-il aller jusqu'à supprimer toute notion de délit pour confier aux seules forces de l'ordre le soin de verbaliser la consommation de shit, et ce au risque d'envoyer un message apparemment laxiste à l'opinion publique, prompte à se crisper dès lors qu'on prononce le mot dépénalisation. Franchement, je vois pas en quoi laisser le soin à la police de faire la répression, c'est un message laxiste.
Oui.
Je ne comprends pas.
Surtout que, par contre, voilà, nous dans ce qu'on critiquait de cette loi quand même, c'est que c'est une loi qui tape sur les consommateurs de cannabis, mais on a surtout remarqué que c'était une loi d'application totalement raciste. Donc son application par les forces de l'ordre était totalement raciste.
Ça va pas se...
La façon dont était traité le petit blanc du 16e qui était pris avec la même quantité de cannabis que le fils d'immigrés maghrébins de la banlieue de Trappes était totalement différente. Voilà, l'un se retrouvait très facilement devant le juge, alors que l'autre avait vaguement son cannabis confisqué, et encore.
Oui, au pire, on appelait son papa ou sa maman, hein, pour aller venir le chercher. Mais, alors, voilà, tout à fait. Alors,
Donc, ceci va être encore amplifié, je pense.
Ah bon, y a des chances, oui. Voilà. Alors, autre phrase qui, moi, me gêne dans cet article, et qui, encore une fois, on a l'impression que ces journalistes, je ne sais pas où ils habitent, je ne sais pas comment ils s'informent, mais bon, et je lis la phrase, et on nous dit en plus, et au même moment où une importante saisie de cannabis vient d'être réalisée dans l'Essonne. Là, ils font référence à la saisie faite par l'Ocrtis. Voilà, sans même nous dire que le directeur de l'Ocrtis est un mec corrompu qui a quand même fait entrer plusieurs dizaines de tonnes de cannabis en France, qu'une partie du cannabis qu'il a fait entrer sur le territoire a disparu, on ne sait pas où il est, que la police espagnole est verte de rage parce que, en gros, ils s'aperçoivent qu'ils ont travaillé avec une équipe représentée par un type corrompu. Mais non, là, on n'en parle pas dans Le Parisien, surtout pas. Et surtout pas dire que cette importante saisie serait là comme pour un peu détourner l'attention et montrer que la police fait encore une fois bien son travail, alors qu'elle est en grande partie sur cette question, en tout cas assez corrompue. Voilà. Donc on devait faire la sieste, la journaliste du Parisien, ce jour-là. Que dire d'autre ? Des spécialistes, quand même, à la fin de l'article, oui. Des spécialistes s'accordent quand même pour dire que ce dispositif n'est pas la panacée, car il ne coupe pas le cordon entre police et justice. au risque que les deux restent engorgés. Mais là, c'est pareil. Enfin, heureusement que la police est liée à la justice et que la justice contrôle quand même le travail de la police. Et elle vient nous dire que oh là là, ça coupe pas le cordon entre la police et la justice, c'est quand même dommage.
C'est peut-être.
Et où elle vit celle-là, quoi.
Enfin, elle a peut-être relu la BD Judge Dredd.
Ouais, je sais pas ce que c'est, ou alors elle a fait un stage aux Philippines chez Rodrigo Duterte pendant l'été.
Voilà, allez, juste, on va écouter le professeur Amin Benyanima Mina, qui est le président de la Fédération Française de Addictologie, qui lui dit un petit peu des choses un peu plus intelligentes, que la modification de la loi à la marge ne va rien changer, quid du trafic, quid de la nocivité, quid du cannabis thérapeutique. Voilà, quid de ce qui se passe dans les autres pays, quelle prévention dans l'éducation nationale, cela aurait mérité un vrai débat de société ambitieux avec des aspects juridiques, sociaux, mais aussi sanitaires, comme on le fait pour les lois bioéthiques. De quoi a-t-on peur? C'est un rendez-vous manqué. Voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, voilà, et qui tout le monde s'accorde à dire que la loi de 1970 est dépassée et inefficace, mais bon. N'empêche qu'on ne la remet pas vraiment en place. Et je finis par une petite phrase, je crois que c'est... Pardon. Bertrand Dotzenberg qui nous a dit ça. Le cannabis en France aujourd'hui, c'est l'alcool frelaté du temps de la prohibition. Voilà, ce qui est une phrase très très juste aussi. Et moi, ce que j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est en quoi l'alcool n'est pas une drogue. Parce que tous ces gens qui veulent lutter contre les drogues luttent contre le cannabis, d'accord, mais ils ne luttent pas contre l'alcool qui est une drogue autrement plus dangereuse, quoi, à mon goût. En tout cas, tout aussi dangereuse.
Voilà, on va pas s'attarder sur les propos de l'autre addictologue qui est interrogé, Florence Worspen, qui elle vraiment raconte n'importe quoi.
Voilà, elle dit que ça va augmenter l'offre de soins, je vois pas en quoi.
C'est n'importe quoi.
Et sinon, elle dit une chose que je ne comprends pas du tout.
Non, non plus, non. Oui, vas-y.
D'où elle le sort, c'est que un quart des utilisateurs ont des problèmes. C'est bien elle qui dit ça, il me semble.
Bah, je pense qu'un quart des utilisateurs qu'elle voit dans sa consultation.
Voilà, on sait qu'un quart des consommateurs de cannabis vont développer des complications. Par exemple, des troubles de la concentration. Voilà. C'est peut-être ça, c'est peut-être un quart des gens qu'elle voit dans sa consultation, et comme elle voit en
forcément
des gens à problème.
Addict et compagnie, oui. Ben oui.
Voilà, moi c'est. Je me souviens m'être disputé avec un infirmier psychiatrique qui travaillait en hôpital psychiatrique, et lui, évidemment, tous les gens qu'il voyait chez lui, ben, ils étaient quand même bien dézingués, et il y en a quelques-uns qui prenaient le cannabis, donc du coup, c'était forcément le cannabis amenait forcément à ça. Voilà, ce qui était une hérésie et un manque de clairvoyance qui, voilà, qui avait fait qu'on s'était un petit peu emporté. Voilà, bref, troisième article, toujours du Parisien.
Voilà, cette fois-ci, c'est le top du top, c'est la petite interview de Robin Reda, proche de Valérie Pécresse. Alors déjà, chapeau,
voilà, donc
formidable, bonne, sacrément bonne fréquentation. Donc ce Robin Reda, qui était le rapporteur de la commission parlementaire sur justement la contraventionnalisation, ce Robin Reda, il s'est fait connaître en devenant en 2014, à 22 ans, l'un des plus jeunes maires de France à Juvisy-sur-Orge. Voilà, une bonne tête de premier de la classe. Mais sur la question du cannabis, c'est le cancre de service. Donc, on va vous lire la petite interview. Elle est rapidos, hein, pour que vous compreniez bien. Donc déjà, en plus, les questions du Parisien, génial. Hein, alors là. Donc, première question. Dans votre rapport, vous écrivez que la France connaît une dépénalisation de fait. Alors, merci pour les 1400 personnes incarcérées en 2014 pour consommation de cannabis. Et puis pour les 1000 à peu près tous les ans depuis à peu près 25 ou 30 ans, ouais, peut-être même bien plus avant. Donc merci pour ceux-là, en tout cas, qui vont en prison et qui n'ont pas connu la dépénalisation de fait dont parle M. Reda. Donc il répond comme ça, voilà. Alors, il y a une grave banalisation de l'usage du cannabis.
C'est vrai que pour
stupéfiant.
Les petites têtes blondes du 16e,
comme lui, en effet, oui, ils se retrouvent pas en prison. Quoi.
Ou à Juvisy-sur-Orge.
Donc il dit, il y a une grave banalisation d'usage de stupéfiants, en particulier de cannabis, qui montre l'échec de notre politique de sécurité pénale et de santé publique. La France est le premier pays consommateur de cannabis en Europe. Dans les établissements scolaires, il n'a jamais été aussi facile de s'en procurer. Et la prévention n'a jamais été aussi faible.
Ah ouais, c'est sûr, mais ça va rien changer.
Ça va rien changer, et surtout quand on n'analyse pas les raisons de tout ça, on risque pas d'avancer.
Deuxième question du Parisien. Vous préconisez que les forces de l'ordre puissent sanctionner la consommation par une simple contraventionnalisation et que ça ne soit plus un délit.
Bah oui, il dit, on vit une gigantesque hypocrisie. Il est plus facile de sanctionner quelqu'un qui consomme de l'alcool sur la voie publique que du cannabis. Donc encore une fois, tout ça dans sa tête, hein, dans son petit esprit, quoi. Il rajoute, aujourd'hui, l'usage simple de stupéfiants est un délit correctionnel puni d'une peine de prison et de 3 750 € d'amende. Donc, puni d'une peine d'un an de prison. Ça, il le dit même pas. Et il rajoute comme ça, mais dans les faits, ce sont surtout de simples rappels à la loi et des stages de sensibilisation qui sont prononcés à la suite d'une procédure longue. Et là, encore une fois, merci hein, pour le millier de personnes incarcérées.
Et surtout, merci pour tous ceux qui passent en commission, en comparution immédiate, qui n'ont pas une procédure vraiment longue, qui n'ont pas vraiment une belle de bonne défense avec leurs avocats,
exactement,
etc.
Donc il dit comme ça, voilà, l'amende contraventionnelle de 150 à 200 euros que je propose, lui il la propose, hein, pas moi, hein, permettrait aux forces de l'ordre de mettre fin à la procédure tout de suite, sur le terrain, avec l'usager interpellé. L'avantage, c'est la sanction immédiate et systématique.
Voilà, vous ne craignez pas que ce soit vu comme un signal laxiste.
Alors là, on pouffe. Voilà. Juridiquement, ça n'est pas une dépénalisation, mais une désescalade dans le régime des peines. Je propose une peine plus pragmatique, ça demeure un interdit pénal, mais plus une qualification délictuelle. Ça peut paraître révolutionnaire, Marcus qui doit trouver ça révolutionnaire. Donc, car cela veut dire supprimer pour le simple usager la possibilité de la prison, qui doit selon moi être réservée aux trafiquants. Je rappelle que c'était déjà proposé par Sarkozy en 2007 et François Fillon en 2017. Alors là, il y a plein de trucs qui déconnent dans sa réponse.
Voilà, après le... Ah, pardon, vas-y.
Oui, bah, en fait, il dit, voilà, donc l'amende pour le simple usager. Sauf qu'en fait, il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent que il n'y a pas de définition du simple usager. On ne sait pas ce que c'est. Un simple usager, entre guillemets, qui sur lui a, je ne sais pas, 2 barrettes de cannabis, selon l'appréciation de la police, il peut très bien se retrouver devant un tribunal, un procureur, et là on va lui dire, mais là c'est pas de la simple consommation, c'est du trafic. Hein, donc là, la prison doit être réservée aux trafiquants. Ça peut aussi s'appliquer au simple consommateur qui a 2 petites barrettes dans la poche. Donc, à partir du moment où on ne définit pas ce qu'est précisément le simple usage et ce qu'est le trafic, on peut continuer à mettre en prison de simples usagers. Voilà. Bon, bah là, le père Reda, visiblement, il n'a pas réfléchi à ça. Alors, ça lui a été, ça lui a quand même été signalé pendant la commission parlementaire. Il y a eu des très très bonnes interventions pendant la commission parlementaire. Ensuite,
après l'autre question, votre co-rapporteur, le LRM Éric Pouya, préfère lui maintenir la qualification de délit.
Voilà. Alors là, je comprends pas ce qui se dit.
Ouais, bah là, c'est de la politicien. Il est sur la ligne en même temps. Tu sais, Macron dit toujours en même temps. Voilà, que le. Alors voilà. Selon le profil de l'usager, soit on met une amende pénale, soit on continue avec la procédure actuelle. C'est exactement ce que tu dis. On garde toujours le flou. Voilà. Or, la peine prononcée par le tribunal pourrait être plus laxiste que l'amende Macron. Il exclut également d'imposer cette amende aux mineurs. Voilà, alors si j'ai bien compris aussi ce qu'ils veulent faire, normalement, tout ce qu'il dit est faux, parce que normalement, il y a de l'amende, c'est pour le primo-usage, si c'est double, c'est directement...
La procédure classique.
La procédure classique,
qui
voilà.
Qui peut amener à une mise en détention, parce que la loi n'est pas abrogée.
Vous craignez que le gouvernement opte pour une réforme à minima?
Alors il répond comme ça, il y a une peur évidente d'ouvrir un débat de société sur une question qui touche pourtant toutes les familles et de nombreux jeunes. On n'ose pas lever le voile sur ce tabou. Je pense que c'est la seule réponse qui se tient de cette courte interview.
Voilà, tout à fait.
Et d'ailleurs lui-même, en proposant et en ayant travaillé sur cette question de mettre en place une contraventionnalisation du simple usage, hein, lui-même ne lève pas le voile sur le tabou qu'il ne veut pas faire tomber. Voilà.
Allez,
et on est mal.
Je vous propose juste une petite pause.
Ah oui, ça va faire du bien.
Puis on...
Allez,
on
tout de suite.
La solution qui résonne, Betterman. Je sens la base qui cartonne, Betterman. La guérison je te la donne, Betterman. Bien c'est dans ton taillon. On s'en plus en mais moi je te la saisonne. C'est de la sauce piquante à mes mots pour la pimentone. Tu viens dans mon sang, tu verras ce qu'on confectionne. Tous les déjeuners te verras pour monter la pression. Je les versions, j'en ai hanté le stress avec de la bonne vibration. Et pour que ton impossible dépose sans condition, tu regagnes toutes les larmes et que baissent les tensions. Et que ton bad boy se lance mais à démission. La danse, tous les bossés vont changer la donne. J'en ai hanté le stress avec de la bonne vibration. J'inverse le son, mon ami, pour que baisse les tensions. J'en ai hanté le stress avec de la bonne vibration. La danse, tous les bossés vont changer la donne.
Et voilà, on vient encore t'écouter Sergent Garcia. Là, on a changé de chanson. C'était Medicine Man.
Voilà. Alors donc, pour clôturer une bonne fois pour toutes ce petit chapitre sur la contraventionnalisation, et comme voilà, il y avait un gros dossier dans le Parisien ce week-end, il y a eu plusieurs interviews, réactions dans les médias, à la radio notamment. Et des déclarations d'Alexis Corbière de la France Insoumise, qui malheureusement n'est pas au point sur la question, on peut le regretter. On a quand même participé aux universités d'été de la France Insoumise au mois d'août à Marseille. On leur a remis un certain nombre de documents, de bouquins. Bon, je sais pas si lui les a vraiment lus. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça ne les intéresse pas des masses, quoi, en fait. Hein. Même dans le parti de Mélenchon, c'est bien regrettable, mais bon, on n'est pas surpris, on a l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il disait le père Corbière? Il disait que, voilà, il faut légaliser sans banaliser. Voilà. Bon, mais il a 20 ans de retard encore, ce pélo, quoi. Ça fait déjà 30 ans que le cannabis est banalisé, monsieur Alexis Corbière. On se demande ce que vous foutez, d'ailleurs, hein, ce que vous racontez. Alors, il nous parle d'un problème de santé publique, blablabla.
C'est ce qu'a fait le Portugal, hein. Ils ont tout passé la problématique de la justice à la santé publique. Ils ont résolu le problème comme ça.
Oui, oui, tout à fait, mais bon...
Dépénalisation.
Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, ces déclarations, elles font plutôt preuve d'une certaine naïveté, d'un certain retard dans ces.
Voilà, c'est intéressant, mais c'est pas très très progressiste, voilà. Mais voilà.
Non, il dit on peut pas non plus lui reprocher ça, hein, il dit à sa décharge quand même, la répression n'apporte rien, on va pas dire le contraire. Elle mobilise le temps de nos policiers et les moyens qui pourraient être investis par ailleurs. La légalisation, au moins lui, il dit le mot, permettrait d'encadrer une activité aujourd'hui portée par des réseaux illégaux, et voilà, il finit, je ne suis pas un laxiste, voilà. Donc ça, c'est effectivement, on dirait que c'est le truc qu'il faut dire maintenant. On veut légaliser, du coup, on n'est pas laxiste. Bon, pourquoi pas?
Seulement, il faut légaliser, mais sans laxiste, c'est-à-dire en renforçant l'interdiction d'alcool chez les jeunes. Moi, quand je vois des jeunes de 14 ans qui cherchent, sortent encore avec des bouteilles de whisky ou seulement des packs de bière d'un supermarché, voilà. Par contre, quand c'est des bouteilles de whisky à 14 ans, je pense pas que ça soit le mieux qu'ils fassent, mais bon.
Non, bien sûr, mais voilà, bon.
Et l'autre chose, c'est les cigarettes. Normalement, il est interdit aux fumeurs, aux adolescents d'en acheter. Donc, s'ils en ont, c'est qu'il y a un souci aussi, quelque part.
Ce que tu dis là, c'est en substance qu'a expliqué Coutron, hein, lors des auditions de la commission parlementaire.
Et il a tout à fait raison, parce que de toute manière, si on arrive à jouer sur l'âge de la première cigarette ou sur l'âge de la première cuite, eh ben, on jouera sur l'âge du 1er juin. Puisque plus l'un baisse, plus l'autre baisse aussi.
Voilà. Donc ça, c'était Corbière. Ensuite, le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire. Bon, lui, c'est plus de la langue de bois. On a l'habitude, hein. Lui, il l'a bien épaisse, la langue de bois, le père Le Maire, quoi. Il réagit par rapport, donc, pareil, à ce projet de mettre en place une contravention.
Des propositions qu'il juge très intéressantes. Et donc, il donne sa conviction personnelle.
Vas-y.
Il ne faut pas dépénaliser le cannabis, mais en revanche, il faut prendre la mesure de notre échec. On a l'arsenal répressif le plus dur, mais la consommation la plus élevée. Je trouve très intéressantes les propositions faites dans ce rapport. L'inconvénient, c'est qu'elles ne vont rien changer. On va continuer à avoir une répression toujours très dure.
Vas-y, avec tous, je vais continuer.
Une certaine désescalade, comme disait l'autre Reda. Et quoi d'autre?
Il faut dire ce qu'il dit, c'est absurde. Il dit voilà, on peut maintenir la pénalisation du cannabis et avoir des types de sanctions plus effectives et plus systématiques. On peut conjuguer des amendes appliquées systématiquement et maintenir la pénalisation du cannabis. Blablabla, blablabla. Bon, de toute façon, lui, il est toujours d'accord avec tout. Il est toujours. C'est toujours très intéressant et bon, il est nul, hein, sur cette question. Voilà, on va pas en dire plus. On a déjà passé beaucoup trop de temps à sur ce sujet-là.
En fait, il est bon sur quelle question, le maire?
Bah, il est ministre de l'économie.
Ah, il est bon sur l'économie.
Ah, j'en sais rien. Il, en tout cas, il est ministre de l'économie.
Allez, repartons sur la carte où il est possible, la carte de la légalisation du cannabis dans le monde.
Voilà, un article de Science et Avenir aussi.
Voilà, et la Grèce vient d'annoncer son intention d'autoriser le cannabis médical, donc un pays de plus qui rejoint déjà la longue liste. On va bientôt arriver à la moitié des pays qui ont légalisé le cannabis médical, mine de rien.
Alors, c'est bon pour la Grèce ?
Oui,
non, parce que t'as commencé avec la carte du monde.
Bah voilà, parce que c'est dans Science et Avenir, il y a
deux titres. Ah, excuse-moi.
Mais vas-y, je te laisse continuer cet article-là.
Voilà, non, juste bon. En fait, l'article sur la carte, il est intéressant. Si vous allez sur le site internet de Science et Avenir, vous tapez donc scienceetavenir.fr carte de la légalisation du cannabis dans le monde. Voilà, c'est plus intéressant que le texte qu'on a sous les yeux qui dit rien d'extraordinaire. Hein. À mon sens, hein. Mais en tout cas la carte est bien foutue, vous pouvez zoomer dessus et ça fait apparaître les régions, les pays où ils ont légalisé, pourquoi, vous verrez, c'est bien foutu. Voilà. J'aime bien la fin de l'article là sur la carte, juste un petit truc qui rappelle quand même que il n'y a pas de cannabis thérapeutique en France, le Sativex n'est toujours pas disponible, le Marinol est accessible uniquement aux personnes qui ont fait une demande d'autorisation temporaire d'utilisation qui a été distribuée à moins de 200 personnes ces dernières années. Bon voilà, donc Coutron, hein, toujours pareil, hein, j'insiste, hein, voilà. Jean-Pierre Coutron parle beaucoup de ça et c'est très intéressant.
Un article très, très intéressant, c'est que justement il parle du seul pays où le cannabis est légal, c'est-à-dire l'Uruguay.
Tout à fait.
Plus après les 8 États américains où il y a la légalisation du cannabis récréatif. Surtout, c'est qu'ils ne mettent pas ni le Portugal ni les Pays-Bas dans les pays qu'ils ont légalisé, ce qui est vrai.
Parce qu'ils n'ont pas légalisé.
Ces pays, c'est juste une dépénalisation ou une tolérance.
Tout à fait.
Et voilà, donc, et ça me permet de dire ce que tu disais est vrai par rapport aux Parisiens tout à l'heure. Ils disaient une grosse connerie puisqu'ils mettaient le Portugal et le Pays-Bas dans les pays qui avaient légalisé le cannabis, ce qui est totalement faux. Ce qui montre encore un manque de sérieux,
de rigueur.
De rigueur et de sérieux de la côté des journalistes du Parisien.
Merci avec eux.
Voilà, ceux-là, on les a habillés pour l'hiver, c'est bon. On va passer à l'article suivant. Sur la Grèce encore, il y avait une petite redondance où ils expliquaient un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Donc bon, le cannabis thérapeutique, on sait ce qu'on veut. Mais surtout, ceux qui se sont remarqués, c'est que c'est qu'il y avait un marché thérapeutique qui arrivait et qui croissait. Et donc, c'était le temps de s'y mettre. Et que si on travaillait beaucoup sur le cannabis médical, si on en faisait pousser, si on faisait des études dessus et si on l'industrialisait, eh ben on pourrait faire de l'argent avec. Et donc la Grèce s'est dit, ben on va en profiter. Et en plus, elle possède un climat idéal pour faire pousser le chanvre, dit le ministre Yannis Tsironis. Je ne sais pas si c'est vrai et s'il y a assez d'eau en revanche, voilà. Parce que c'est quand même une plante qui aime un peu l'eau. Hein,
pour l'eau et le soleil. Alors le soleil, ils en ont. L'eau, je ne sais pas.
Un peu moins. Voilà, mais avec des gouttes à gouttes, ils peuvent faire des choses très très bien. En tout cas, ils espèrent pouvoir faire 1,5 à 2 milliards d'euros. Grâce à ça.
Et ça peut faire du bien à leurs finances, quand on sait que malheureusement la Grèce est harcelée par l'Union Européenne et des banques pour rembourser une dette.
Voilà, alors juste pour finir cette émission, puisqu'on arrive à son terme, on va peut-être parler de l'Espagne, puisqu'on a parlé de beaucoup de mesures un peu positives avec le Vermont, avec la Grèce. On va arriver sur ce gouvernement espagnol qui est quand même assez rétrograde.
Bah, avec Rajoy, c'est un gouvernement de droite, un ministre de droite,
voilà, tout à fait.
Réac.
Et a priori, donc, qui ne savait pas comment se débarrasser de ses problèmes, de ses CSC, de ses petites cette loi qui était passée dans les différents régions ou plus ou moins autonomes.
Dans les autonomies, ouais.
Voilà, bien que ils veulent pas que l'autonomie aille trop loin, et donc là aussi, comme
je pense que c'est un des contre-coups de ce qui s'est passé à Barcelone, en Catalogne.
Voilà, et donc pour changer, pour pas être pris au piège par des recours au niveau européen, ils ont fait jouer la Cour constitutionnelle, ce qui est un bon plan puisque si c'est anticonstitutionnel, eh ben on peut même pas aller faire un tour au niveau européen. A priori, c'est perdu d'avance. Voilà, et c'est tout ça pour mettre un coup contre ces velléités d'indépendance, comme tu le dis tout à fait, et pour rappeler que les lois fédérales sont quand même, la loi nationale espagnole est plus forte que ces petites lois des régions, et que quand même, elles peuvent pas aller contre un interdit pénal, hein, nom de Dieu.
Voilà.
Et donc la loi actuelle, il y a aucune possibilité pour le... Oui, il y a un grand article d'ailleurs sur Sensicide là-dessus, qui finit que au final la seule issue ça va être de modifier le code pénal pour pouvoir accepter le cannabis, pour pouvoir l'autoriser, et puis pour autoriser le CSC. Alors la seule chose qui semble passer à peu près entre les gouttes, si j'ai bien suivi, ça doit être l'autoproduction qui va rester légale en Espagne.
Bah moi j'ai cru comprendre l'autoproduction et les tout petits CSC. Voilà, qui fonctionne de manière horizontale. C'est-à-dire, il y a très peu de membres. Et là, apparemment, ça passe un peu à travers, quoi.
Ouais, parce qu'elle passe inaperçue, quoi.
Oui, mais j'ai l'impression... Enfin, oui, peut-être, oui, je sais pas...
En fait, c'est les petites CSC de 2-3 personnes qui se connaissent, qui font un truc ensemble, mais qui font pas de la publicité, qui sont pas ouverts, où on peut pas aller, comme... Parce qu'a priori, il y a quand même beaucoup de CSC où, même en étant français, on peut y aller.
Ah oui, j'en connais. Je pense que c'est aussi une volonté de stopper un certain nombre de dynamiques perçues comme des dérives, en fait. Voilà, je pense que c'est un peu ça, la volonté du gouvernement. Bon, on va rester quand même vigilant par rapport à ça. En tout cas, c'est un coup d'arrêt par rapport à ce qui s'était mis en place depuis une dizaine d'années en Espagne. Que ce soit en Catalogne ou au Pays Basque. On va suivre quand même le dossier et on vous tiendra au courant. Mais en tout cas, voilà, il semblerait que l'Espagne n'est plus le paradis des cannabinophiles et des amateurs de Cannabis Social Club. En tout cas, plus pour le moment. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de fête du cannabis, de colloques, de d'expositions, comme il y a eu à Irún ces dernières années. Voilà, on verra... Voilà. Donc c'est je termine. T'as plus rien à dire. C'est bon. Je peux clôturer l'émission.
Vas-y. Je t'en prie.
Donc juste avant de terminer, je voulais une fois de plus vous rappeler que en termes d'information, en ce qui concerne le cannabis, il n'y a pas que Cannabis Circus sur Radio Canu. Il n'y a pas que les pages Facebook du Cirque et du Cirque Lyon. Il n'y a pas que les sites internet du Cirque et du Cirque Lyon. Il y a aussi la chaîne de télé Cirque TV que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc c'est très simple, vous allez sur le site YouTube, www.youtube.com. Dans la barre de recherche, vous tapez Cirque TV et ça vous amène tout simplement dans l'espace télévisuel des vidéos du cirque. Sur cette page Cirque TV, vous pourrez retrouver toutes les auditions de la commission parlementaire qu'il y a eu au mois de septembre-octobre. C'est très intéressant, vous verrez, pour écouter les différentes contributions des uns et des autres. Il y a également un flash talk sur le cannabis là qui a été filmé ces derniers jours, mais vous pouvez également retrouver les interventions d'Alexis Corbière dont on parlait, de la France Insoumise et de Bruno Le Maire hier sur BFM TV, puis il y a plein d'autres trucs. Il y a des émissions de radio aussi, mais aussi l'intervention du cirque et de François Georges à Marseille au mois d'août aux universités d'été de la France Insoumise. Il y a aussi des émissions de télé, des documentaires, voilà. Donc vraiment, ouais. C'est une mine d'informations sur la question des drogues et du cannabis en particulier.
Il y a un ami qui travaille beaucoup là-dessus,
il faut le féliciter, on va quand même citer son nom, il s'appelle Cachou. C'est vraiment un des fondateurs du cirque en France en 1991 et il travaille beaucoup sur tout ça, sur la communication et sur le fait de pouvoir donner à tout un chacun la possibilité de s'informer sur le cannabis. Donc voilà, Cirque TV, c'est vraiment très très intéressant, très important, très consistant. Voilà. Donc c'est la fin de Cannabis Circus aujourd'hui, lundi 22 janvier 2018. Je vous donne quand même un numéro de téléphone, 06 11 53 10 07. Et vous rappelez, nos adhérents et adhérentes qui écouteraient l'émission, que samedi après-midi, à partir de 16h, au 5 Quai Lassagne, il y aura l'Assemblée Générale du Cirque Lyon. Voilà, à partir de 16h, 5 Quai Lassagne. Eh bien, voilà, c'est tout. Maintenant, c'est Chasseur de Son, avec une équipe de DJ et tout un tas de matos, là, tout près, juste à côté de nous, qui sont prêts à vous faire groover jusqu'au bout de la nuit. Voilà. À la semaine prochaine, et au revoir. Merci à toutes et à tous.
Ciao, ciao.